CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
5, 2, 1. Oh, vendredi. Vendredi bien en selle, commencé depuis tôt ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez apprécié l'émission des gars ce matin. Reg Against le matin, tous les jours en semaine, avec nul autre que Reg Laplanche, Jeff Fortin et Max Larouche. Ils sont partis. Ils vont faire un petit meeting là, de fin de la semaine. Puis après ça, hop, eux, ils sont en week-end. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça? Je sais qu'il y a un auditeur, Stéphane, qui a les vendredis de congé. Même chose pour Audrey. Une couple de personnes, normalement, là, qui font un 4 jours semaine, mais qui sont quand même au rendez-vous de leur CV. Et ça, c'est un privilège. Bon vendredi 5 avril, comme vous venez d'entendre, on souligne l'anniversaire de décès de Kurt Cobain. J'aime tellement ça, ces petites capsules-là qui passent une fois de temps en temps à Boulevard 102.1. Ça mélange la musique, l'histoire, notre petite nostalgie, mais il y a quelque chose de vraiment le fun dans ce que notre collègue Tommy Fontaine fait et je voulais le souligner. Probablement qu'elle va repasser là, au courant de la programmation. Peut-être que je vais vous la remettre. Enfin, je vais la reglisser un peu plus tard à l'émission pour que vous puissiez la réentendre. Bien le bonjour à tous. Bonjour à ceux qui sont là pour la première fois. Y a-t-il quelqu'un qui vient de tomber sur Boulevard 102.1 ou leur CV pour la toute première fois? 418-971-1021. Y a l'application aussi. Si jamais tu veux texter rapidement, appeler rapidement pendant n'importe quelle émission, elle est extrêmement bien faite. Il y a un téléphone puis un texto, puis ça te ramasse tout de suite dans notre boîte de texto. Sinon, ben il y a les caméras en studio. Aujourd'hui, le studio n'a pas trop changé. C'est toujours la même histoire. Je suis seule avec vous jusqu'à 11h. Ensuite, Yannick Marceau s'en vient avec Tom Gauthier, bien sûr. Caméra en studio, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez voir en direct ce qui se passe, les expressions faciales et les invités aussi qu'on reçoit. Soit. Pour s'y connecter, c'est simple, twitch.tv/blvd/fm. Et surtout, ce qui est le plus fun, c'est qu'on a un gros chat en live, tout le monde ensemble. Donc, au courant des sujets, au courant des conversations, puis même des conversations que vous décidez de vous partir entre vous, ben c'est super simple, c'est un bel esprit de communauté. C'est un de mes outils favoris, même à la radio. Peut-être qu'un jour, on se fera des petites diffusions là, hors onde, là, la gang à Boulevard 101 pour vous jaser. Ah, peut-être que ça pourrait être intéressant. Hey, mais en ce vendredi, je vous l'avais dit hier, c'est des nuages à l'extérieur. C'est pas nécessairement la journée la plus ensoleillée, mais il y en aura. Faut juste passer à travers aujourd'hui et demain. C'est la pluie intermittente mêlée de neige depuis les débuts de la journée. 4 degrés, ce sera le maximum pour aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, 1 degré. Demain, samedi, 5. Alors, c'est vraiment copier-coller. Vendredi, samedi, Mère Nature s'est pas cassé la tête, elle dit ben ça va être la même chose pour les deux prochains jours, mais par la suite on goûte officiellement au printemps avec du soleil, 8 degrés dimanche, lundi 15. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de bon dans la météo qui s'en vient tranquillement, pas vite. Qu'est-ce que vous allez faire en fin de semaine? Avez-vous des plans concrets? Est-ce que vous allez profiter des érablières? On est pas mal vers les dernières fins de semaine. Je sais qu'il y a plusieurs érablières aussi qui offraient des livraisons là, de petits plaisirs sucrés. Allez les encourager, ils travaillent tellement fort. Puis ça a été une saison vraiment intéressante pour eux. Fait que c'est comme le temps, en fait, d'être derrière eux puis d'alimenter un peu leur coffre-fort. Je dis ça, mais c'est parce que je sais à quel point c'est exigeant être acériculteur. Puis souvent, ben, c'est pas la seule chose que ces gens-là font. C'est pas juste pendant cette période-ci de l'année qu'ils travaillent. Ils travaillent toujours très, très fort. L'agriculture est mêlée à tout ça normalement ou encore un autre emploi. Puis ça a tellement coulé dans les dernières semaines qu'il y en a beaucoup qui restaient à la cabane à sucre le soir parce que les bassins se remplissaient tellement vite qu'il fallait bouillir aussi vite que ça se remplissait pour pas en perdre. C'est notre art québécois, veut pas, puis on veut pas gaspiller, parce qu'en plus, ben il y en a qui connaissent des saisons où ça va un petit peu moins bien. Fait que quand ça coule comme ça, là, on rentabilise, mais on écope un peu côté santé, un peu sommeil, un peu social, un peu famille. Donc, je pense que c'est le temps de se gâter pour des très bonnes raisons, soit mettre du sucre d'érable dans notre vie, du sirop d'érable dans notre vie, du beurre d'érable dans notre vie. Il n'y a pas grand-chose de plus exceptionnel dans la période qu'on vit en ce moment là, que la période des sucres. Justement, peut-être que ça fait partie de vos plans pour ce week-end. Soit bouillir, soit en profiter, en manger ou à la cabane. Écrivez-moi au 418-971-1021. Je suis curieuse, en fait, de savoir c'est quoi votre plan pour ce week-end de 2 jours, contrairement à celui de la semaine passée où c'était 4 jours. Petit proverbe pour commencer la journée, bien sûr, c'est notre, c'est notre routine, en fait, là. Et aujourd'hui... c'est simple et efficace. On peut être intelligent toute sa vie et stupide un instant. Donc, je pense que il y a quelque chose à faire avec ça. Puis moi, je l'aime, cette phrase-là, parce que je la vois pas comme péjorative, je la vois comme « amusez-vous aussi de façon stupide une fois de temps en temps ». Tu sais, ça mettra pas en péril votre intelligence, ça mettra pas en péril votre crédibilité. Bah là, c'est sûr qu'on peut avoir quelques aspects ou quelques exemples qui nous démontrent le contraire, là. C'est comme la confiance, hein? Ça prend du temps à bâtir, mais une seconde à fragiliser ou à détruire. Cependant, cette phrase-là, moi, je l'adore parce qu'elle fait penser à toutes ces personnes-là qui sont hautement intelligentes, qui ont beaucoup de réflexions, mais qui se permettent aussi une stupidité dans leur vie. Puis je trouve que c'est encore plus intelligent. La personne devient encore plus intelligente quand elle est capable de faire ça, d'avoir pas trop se prendre au sérieux, disons-le comme ça. Elle est sérieuse, elle est intelligente, la personne, mais elle ne se prend pas trop au sérieux. Ça construit une belle société, ça. Je vous souhaite que ce soit ça pour en fin de semaine, que vous soyez complètement stupide, mais là, pas de façon criminelle, là. Faites attention. Il y a des règlements en société, malgré tout. Roy Davis avec Nosferatu. Hey, j'ai failli vous scraper ça. Je ne connais pas la chanson, on va l'écouter ensemble. C'est ça qu'on s'offre sur les ondes de Boulevard 102.1. La connaissiez-vous? Maintenant, oui.
RCV avec Pascal CV.
Il y a une organisation qui a décidé de joindre l'utile à l'agréable et c'est le cégep de Limoilou. En fait, les étudiants de première année en technique de commerce organisent une soirée, puis cette soirée-là, elle est caritative. C'est au profit d'un organisme, Saint-Vincent-de-Paul, que vous connaissez, c'est sûr, sûr, sûr. Et ça va être une soirée musicale. Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. On est un peu en partenariat avec cette initiative-là. Pourquoi? Parce que il y a de la musique, c'est une bonne cause, puis... veut pas. On aime ça encourager les jeunes qui décident de repousser un peu les limites puis s'impliquer aussi dans la société. Dans la société étant la capitale nationale, aussi simple que ça. Et la COSIC, ça s'appelle comme ça, ça va se dérouler le 10 avril prochain. C'est à la salle Montaigne du cégep Limoilou. Vous avez le temps de retenir à quel moment et où ce sera, là. Mais le 10 avril prochain, soirée caritative à partir de 19h pour aller voir trois groupes et une artiste qui vont jouer de la musique pour vous toute la soirée. Fait que si vous avez envie de juste vous évader, passer une belle soirée au profit de quelque chose, c'est d'avoir dans l'engrenage là, le fait que l'argent que vous allez dépenser va aller justement à cette fondation-là, l'organisme Saint-Vincent-de-Paul. C'est à retenir et je pense que c'est à mettre à l'agenda aussi. Ils vont jouer du rock, du pop, du indie, du folk, du country, plus encore. Finalement, ils vont jouer de la musique dans n'importe quel style. Les bands et artistes de la soirée, il y a Jason, Mechanix, Laurence Lily Evans et le band à Boisvin qui seront sur place. Pendant la soirée, il y a des choses à manger, à grignoter, il y a des boissons alcoolisées et non alcoolisé selon votre préférence, hein, mais tous les profits vont pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Donc, ça m'intéressait de vous en glisser un petit mot. Là, je vous rappelle, c'est le 10 avril prochain, puis les billets sont en vente au lepointdevente.com. Si on s'y dirige, c'est super simple. Là, vous allez voir lepointdevente.com sur Google. Vous ouvrez la page, puis vous allez voir la soirée COSIC, en fait, pour Saint-Vincent-de-Paul, pardon. Initiative des jeunes, initiative des jeunes au cégep. Fait que moi, je pense qu'il faut les encourager, justement, puis ça va donner quelque chose de bien aussi. S'ils pognent un bonheur à faire ça, si ça prend du positif dans leur vie, puis ils décident finalement tout au long de leur processus personnel s'impliquer comme ça, parce que cette soirée-là, il y a eu des gens qui se sont présentés, bien, ça sera toujours bien ça de gagner dans la société. Et on va aller jaser un peu plus tard à l'émission à Sylvain Dancause, le professeur en éducation, le professeur en mathématiques là, à la Courvilloise, notre chroniqueur éducation ici à Boulevard 102.1, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelque chose de particulier qui s'est passé en éducation. L'émission Survivor. Bon, salutations à mon ami Olivier Corneau, peintre, extraordinaire personnage, très aimant, très humain, qui a failli mourir finalement là, dans Survivor. Je pensais que c'était mieux encadré que ça. Je fais pas de critique, là, mais il pensait que c'était un manioc qu'il y avait dans la terre. Finalement, il l'a mangé, puis pour lui avoir parlé depuis... sa bouche, s'il avait vidé une bouteille de tabasco complète dedans, ce serait déjà moins pire que lorsqu'il y a eu la réaction à cette racine-là qu'il a mangée dans Survivor. Là. Il a vraiment eu peur de mourir, puis il dit que c'était super gênant, en fait, là, de vivre ça à la télévision. Mais bon, sa bouche était rendue de la lave, là, et où un résultat de grand déversement d'eau de Javel. Là. Ça fait que c'était complexe, mais pour revenir à Survivor... il y a des enseignants qui sont de l'aventure. Rappelez-vous, il y a aussi le maire là, qui avait fait l'actualité justement pour cette parution. Mais deux enseignants, deux enseignantes. Une au privé, une au public. L'enseignante au privé se fait faire une publication Facebook d'encouragement en disant qu'elle se présente pour montrer à ses élèves la détermination, repousser ses limites, aller plus loin dans la vie, sortir de sa zone de confort, essayer des choses nouvelles. Elle en parle comme ça, puis elle prône comme ça. Et son école où elle travaille l'encourage. Elle publie, elle est derrière l'enseignante. Au public maintenant, bien, l'enseignante, en ce moment, ce qu'on sait, c'est qu'elle va se faire renvoyer à son retour. Elle n'aura plus la possibilité d'enseigner dans cette pénurie de main-d'œuvre, également avec un dossier sans tâche. C'est particulier, deux traitements, même histoire. En plus, on peut perdre une enseignante extrêmement qualifiée parce qu'elle a décidé, elle, de, au personnel, repousser des limites. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle avait le droit de le faire? Est-ce que vous croyez que finalement, ça vient en contradiction avec la job qu'elle fait au quotidien? C'est quand même deux poids, deux mesures, mais pour la même situation. Au privé, on l'encourage, on est derrière elle, on en fait même des publications au public, justement. Puis au public, elle va se faire renvoyer en revenant. C'est tout un dossier en ce moment qui me fascine et qui démontre peut-être les problèmes dans l'engrenage du public. Sylvain en a beaucoup à dire. Et on va aller lui parler pendant leur CV. Restez là, courte pause, on revient. À l'extérieur, c'est une drôle de journée. Bien, alternance soleil-nuage avec un genre de 4 degrés. On a pas mal touché le maximum parce que c'était 4 degrés qui était prévu comme maximum aujourd'hui. Drôle de journée dehors, mais drôle de journée aussi dans l'actualité. C'est comme si cette semaine, c'était un petit peu plus calme. Et où, sans être calme, beaucoup de place à l'international. Bon, on va faire un petit tour par chez nous d'abord et avant tout. Là. C'est fascinant des fois de se comparer. Mais on se console pas. Le Mont-Sainte-Anne, il y a un article dans le Journal de Québec, là, La Montagne, que vous connaissez, là, sur la côte de Beaupré. On dit qu'une station dans cet état-là, dans l'état du Mont-Sainte-Anne, serait fermée en Europe. C'est un investisseur potentiel qui a fait ses recherches, qui a regardé un peu l'état de la montagne, qui serait peut-être intéressé justement à investir dans cette montagne de Beaupré. Investir plus de 100 millions de dollars. Et c'est la société française eLiberty Services pour poursuivre son expansion au Québec. Donc, eux ont une envie, en fait, d'aller peut-être prendre d'assaut certains endroits ici chez nous et de les exploiter. Et le nouvel opérateur du Mont-Grandfond estime que la station de ski de Beaupré, dans l'état actuel, serait tout simplement fermée en Europe parce que c'est mal entretenu. C'est vrai, bon, en Europe, une station dans cet état-là, on a rarement vu ça. C'est un peu leur fierté. Hein? Aussi, au niveau sécurité, on dit que c'est pas suffisant. C'est ce que Christian Mars, de la compagnie des montagnes de ski du Québec, qui est en filiale avec la société française eLiberty Services, a dit. Mais rappelez-vous, après son passage au Mont-Grandfond, ça c'était à la mi-mars, on avait jasé un peu dans l'actualité, mais il y avait le ministre Pierre Fitzgibbon qui avait décliné les entrevues sur l'avenir du Mont-Sainte-Anne. C'est comme si on restait un peu dans le flou, c'était nébuleux, on ne savait pas trop ce qui allait arriver, mais le ministre voulait voir plutôt les investissements au Mont-Sainte-Anne avant d'en parler. Finalement, il n'est jamais revenu dans l'actualité. Mais il y a une forte volonté de Christian Mars de mettre la main sur cette station-là, soit le Mont-Sainte-Anne, pour peut-être en faire quelque chose de mieux. Il est sérieux, il y a beaucoup d'argent, c'est ce qu'on a confirmé là, dans une source proche du dossier. Le hic, c'est est-ce qu'on veut que ça reste entre nos mains majoritairement ici? Est-ce qu'on avait quelqu'un qui aurait pu s'en occuper? Ou qu'est-ce qui bloque, en fait, de notre côté pour le faire? Mais officiellement, on sait qu'il y a des investisseurs étrangers qui sont intéressés. On sait que le gouvernement est allé faire son tour, mais il y a un gros statu quo dans tout ça. Et l'homme d'affaires, il croit pas. On a l'impression qu'on joue un peu avec lui dans ce cas-ci. C'est ce qu'on lit dans l'article. Mais le Mont-Sainte-Anne, je veux dire, c'est une perle. On est chanceux de l'avoir. Il y a des engagements nécessaires, par contre, qui doivent être pris pour sauver le tout. Tu sais, une télécabine qui tombe, on veut pas revoir ça. La sécurité, c'est super important. On veut pas stresser quand on y va. On veut que la montagne soit ouverte. On veut qu'elle soit bien entretenue. C'est une belle richesse qu'on a, puis on a des installations quand même qui se valent. Mais oui, effectivement, il faut mieux les entretenir et c'est là où les gens sont très, très vocaux sur la situation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je connais plusieurs personnes qui sont très tristes de ne plus être capables de vivre les saisons de ski ou encore les saisons d'activités qu'ils ont vécues au Mont-Sainte-Anne depuis les dernières années. Il y avait comme eu un relan, en fait, de plusieurs choses, que ce soit pour le vélo de montagne, le ski de fond, le ski alpin, la randonnée. Puis avec comment on entretient tout ça, ben ça a un peu créé des tensions, ça a un peu créé des gens qui étaient tristes, en fait, de payer aussi cher pour pas avoir de service. Alors, on s'est détaché de la montagne. Puis c'est absolument plate parce que c'est une belle montagne chez nous qui nous permet de profiter du plein air en masse. Mais c'est ça, faudrait s'en occuper d'une autre manière. Tentative de meurtre à Beauport. Il y a un homme qui a été retrouvé ensanglanté en bordure de route à Québec. Là. Puis là, on cherche encore pourquoi c'est arrivé. On cherche encore des suspects dans tout ça. L'homme ensanglanté, il était en bordure de route, mais il était dans un état vraiment critique. Là. Puis il y a quelqu'un qui l'a trouvé, puis on s'est rendu compte finalement que c'est une tentative de meurtre qui a été faite auprès de cette victime-là, de cet homme-là. Et dans les circonstances toujours nébuleuses malgré tout, là, ça se serait déroulé vers minuit 20 là, dans la nuit dernière, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Victime de 32 ans qui a été retrouvée semi-consciente, c'était sur l'avenue Saint-David. C'est un automobiliste qui passait par là, puis il a arrêté. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, c'est sûr, tu vois quelqu'un ensanglanté, tu continues pas ta route, sinon tu es une très mauvaise personne, mais peut-être que tu te poses des questions sur ta propre sécurité en voyant une personne comme ça, qui clairement en avait eu toute une, brasse camarade. Est-ce que tu appelles la police ou tu arrêtes puis tu t'en vas à son secours? C'est là où je me pose la question. C'est un automobiliste qui l'a trouvé, mais si c'était une femme, est-ce qu'elle aurait eu peur pour sa propre vie? C'est ça qui est un peu déplorable maintenant quand tu viens d'une situation d'urgence comme celle-ci, mais bon. Là, l'automobiliste s'est arrêté et on a pris en charge la personne qui a été transportée à l'hôpital L'Enfant Jésus. C'est lui qui a contacté les autorités pour signaler l'agression. Dans la tentative de meurtre, ce qu'on sait, c'est que ça se serait produit dans une maison de chambre qui est sur le boulevard Haouet et la rue Guimont. Il y a une arme blanche qui aurait été utilisée pour commettre le crime. C'est comme si la victime avait été poignardée à plusieurs reprises, avait tenté de se sauver. Et finalement, elle s'est écrasée au sol. On ne sait pas nécessairement pourquoi il y a eu altercation de ce type-là. Le corps de police a refusé aussi de confirmer ou d'infirmer un lien quelconque avec la guerre des stupéfiants. T'sais, on y pense maintenant tout le temps, là, guerre des stupéfiants entre les Hells Angels et la gang à Pictourmel qui sévit, qui fait rage finalement dans la région depuis un bon bout. Mais chanceux quand même, là, l'homme en question, d'être tombé sur un bon samaritain parce que vraisemblablement, elle voulait aller chercher de l'aide chez les voisins, puis il y a eu des traces de sang là, qui ont été remarquées sur tout son passage, puis il n'y a personne qui a répondu à son appel d'urgence. Mais c'est ça, là où je me questionne, c'est, tu vois une personne ensanglantée qui a été atteinte par une arme blanche à plusieurs reprises, tu ne sais pas dans quelles circonstances. Est-ce que, certainement, tu n'es pas une mauvaise personne de réfléchir en disant « Est-ce que ma propre vie est en danger si j'interviens? » En même temps, tu ne veux pas laisser cette personne-là dans un état comme tel, mais c'est ça. Personne n'a été capable de l'aider à ce moment-là ou a pris la décision de l'aider. Mais violente agression qu'on a à éclaircir. Puis félicitations à cette personne-là qui est arrêtée pour venir en aide à la victime. Mais on va voir, en fait, tout ce qui en découle de ça. Puis comme je vous dis, on n'écarte pas nécessairement le lien. On ne peut même pas dire qu'il y a un lien en ce moment parce que la police ne répond pas au sujet de cette altercation-là. C'est sûr que c'est en enquête. Puis c'est voilà pourquoi peut-être qu'on n'a pas plus d'informations. Stéphane Huot est revenu dans l'actualité. On dit que c'est la débâcle du groupe Huot, la pire faillite de l'histoire de Québec. Il a vendu à rabais ses propriétés. Voilà qu'on fait un décompte aussi de tout ce qu'il avait. Vous savez, il a parlé dans les médias dans les dernières heures. Le promoteur immobilier est bien connu ici dans la région pour diverses raisons. Les vôtres sont les bonnes. Mais ce qu'on dit, c'est que, bon, il a dû revoir à la baisse le prix de plusieurs possessions qu'il avait, entre autres son majestueux manoir de Le Bourgneuf et son luxueux condo de Floride. C'est ce que le bureau d'enquête de Québecor a affirmé aujourd'hui. La résidence principale de Stéphane Huot, là, c'est trois garages, une piscine, un ascenseur, six chambres à coucher, trois salles de bain et une souris verte, je niaise, mais un logement indépendant. Ça avait été mis en vente en avril dernier pour aussi peu que 3,7 millions de dollars, mais ça a été ramené à 2,9 millions de dollars parce que c'est ça. On voulait probablement vendre rapidement suite aux annonces qu'on a faites sur sa situation. Intéressant aussi, un autre dossier, celui de Daniel Langlois. Est-ce que vous vous en souvenez de cette histoire-là? Mais il y a le meurtrier allégué de Daniel Langlois qui a brisé le silence. Ça, c'est intéressant dans des histoires de justice, mais Jonathan Lehrer, okay, c'est un Américain qui, lui, est soupçonné d'être derrière des meurtres importants, donc le meurtre de l'entrepreneur québécois Daniel Langlois et de sa conjointe Dominique Marchand sur l'île de la Dominique. Ça s'est passé en décembre dernier. Et là, on a brisé le silence pour la toute première fois hier. L'accusé, il est toujours derrière les barreaux en Dominique puis attend la suite des procédures judiciaires. Mais il a accordé une entrevue indirecte au Toronto Star et via ses avocats puis une firme de relations publiques. Bien sûr, il n'est pas allé sans s'assurer qu'il ne dépasse pas des limites de communication. Mais il a pourfendu le portrait qui a été dépeint de lui dans les médias. Donc, lui, il dit que le nombre de reportages qui ont été faits, c'est d'un un généreux ramassis d'informations qu'il ne fait pas son affaire. Mais ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il s'est retrouvé dans une embourbée, dans un long conflit de plusieurs années avec ces personnes-là. Et ça a escaladé. Mais il ne va pas plus loin dans ses propos. Puis c'est ça qui est intéressant parce qu'il parle, mais ça reste inconnu. On comprend que le meurtrier allégué n'a pas évoqué les accusations qui pèsent contre lui, puis il n'a pas répondu aux questions sur la relation qu'il avait avec Daniel Langlois. Et il dit que c'est sous prétexte que l'enquête policière est toujours en cours dans le dossier, mais il est quand même allé parler par ses avocats et une firme de relations publiques dans les médias. Il y a quelque chose là-dedans qui me fait penser en psychologie à... Puis là, on sort du dossier, mais souvent, ceux qui commettent, puis là, vraiment, on sort du dossier, qui commettent des meurtres ou autres, on aime avoir la lumière sur eux. Ils vont souvent peut-être participer à des fiches documentaires, des articles sur eux et tout, parce que ça leur ramène une gloire, ça leur ramène une lumière. Puis c'est peut-être pour ça aussi qu'on se pose des questions dans les médias, des fois, de ne pas nommer trop leur nom ou encore en faire peut-être des séries comme avec Jeffrey Dahmer, où j'ai eu un profond malaise parce que les gens commençaient à se déguiser en Jeffrey Dahmer pour justement l'Halloween. Puis, mais ça reste que c'est des gens qui ont commis des meurtres. Ils adorent ça. Ils se nourrissent de ça bien avant le meurtre. Puis des fois, le meurtre ou l'agression qu'ils commettent, ils commettent pour aller être un acteur important de l'actualité ou que les gens prennent conscience qu'ils existent dans la vie. C'est fou, hein? Puis il y a des gens qui perdent la vie entre les mains de ces gens-là qui voulaient juste faire parler d'eux. Mais d'une mauvaise manière, faut le dire. Faut le dire. Là, je pense qu'on n'a pas besoin de le mettre trop en lumière. Sinon, le cégep Garneau est dans l'actualité aujourd'hui parce que on parle de l'éclipse solaire, l'éclipse scolaire aussi, on peut l'appeler comme ça. Mais lever des cours qui est refusé pour voir l'éclipse. On avait demandé ça. Les étudiants du cégep Garneau à Québec ont encaissé un refus de la direction parce qu'ils voulaient lever les cours pour aller observer cette éclipse solaire-là du 8 avril prochain, malgré un vote favorable de la communauté étudiante. Là, bien des étudiants voulaient pouvoir participer à cet événement spectaculaire et historique-là. Il y a un vote en ligne qui a été effectué en mars dernier. Ça a été fait sur le portail du Cégep et ça montrait que 79,5% des étudiants étaient en faveur d'une levée des cours entre 14h et 18h. T'sais, c'est pas toute la journée, le jour de l'événement. C'est 3289 étudiants qui ont voté dans le sondage. C'est un taux de participation record selon l'association étudiante. Puis là, ce qu'on dit, c'est que là, on respecte pas la démocratie étudiante. C'est un non-respect de tout ça. Il dit on n'abuse pas des votes et autres, mais là, on voit vraiment l'engouement des gens d'être, dans la capacité de sortir de leur cours pour aller profiter de l'éclipse solaire. Mais la direction a dit que c'est très, très important de s'impliquer, oui, de faire un vote, oui, mais qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc, la direction du cégep qui n'a pas l'obligation d'autoriser une levée de cours malgré un vote populaire des étudiants. On dit que c'est un aspect historique et pédagogique qui est complètement évité et que cet événement-là devrait convaincre la direction. Les profs voulaient pour la plupart aussi qu'il y ait une levée de cours, il paraîtrait, donc, selon les discussion, soit une pause. Là. Et puis c'est vraiment la direction qui a refusé parce que les demandes des professeurs et des étudiants pesaient lourd en fait sur le système. Au Québec, je vous rappelle, phénomène spectaculaire qui s'est produit pour la dernière fois il y a plus de 50 ans, c'est en 1972 et il va falloir attendre 80 ans pour pouvoir observer à nouveau une éclipse, soit en, oh mon Dieu, le dire, en 2106. Hey! Il n'y a personne ici, je pense, qui va être encore vivant. Là. Sinon, la technologie et la science vont nous avoir amenés complètement ailleurs. Là. Mais c'est ça, on maintient la ligne dure en même temps quand je lisais ça. Moi, je pense bien qu'il y a une couple de cégepiens qui vont décider d'y aller pareil puis de ne pas attendre que la direction de l'école leur donne le champ libre. Là. Ils vont peut-être demander des notes de cours à des amis qui se foutent de l'éclipse solaire ou encore tout simplement de demander au professeur s'il y a possibilité d'avoir un rattrapage ou tout simplement ne pas en avoir. Hein. Moi, je me rappelle du cégep, il n'y avait pas beaucoup de conséquences. Quoiqu'au secondaire, il y avait les présences qui étaient prises, puis si tes parents étaient un peu plus stricts, ça faisait en sorte que tu n'allais pas avoir de possibilité de t'en sortir sans sanction, là, parce que les professeurs compilaient qui était là en classe ou pas, puis il y avait un appel directement aux parents. Mais au cégep, il me semble qu'on était rendu ailleurs là, dans notre vie. Je termine avec l'international. Il y a Israël qui se fierait à l'intelligence artificielle pour identifier des cibles humaines à Gaza après la tragédie qui a coûté la vie à des Québécois, dont un beauceron dont on parle puis on honore depuis quelques heures. Bien, ce qu'on sait, c'est qu'il y a l'intelligence artificielle qui est utilisée. Tu sais, Israël, rappelez-vous, on en parle souvent avec notre chroniqueur en sécurité informatique, Patrick Mathieu, qui nous dit... C'est vraiment un endroit dans le monde où ils sont hyper ferrés en intelligence artificielle, en tout ce qui est technologie, en ce qui est piraterie informatique, web. C'est des gens qui ont investi énormément dans cette façon d'apprendre-là auprès de leur propre peuple. Et ils ont beaucoup développé, en fait, ces compétences-là. Et l'armée israélienne est une des meilleures, en fait, dans le monde. Et on a développé, justement, un programme d'intelligence artificielle qui vise à déterminer les cibles humaines à bombarder à Gaza. Donc, c'est utilisé dans une des façons les plus atroces dont on peut l'utiliser. Mais c'est une enquête journalistique qui a été menée par deux sites d'information qui sont basés en Israël qui font découler cette information-là aujourd'hui. On a désigné des dizaines de milliers d'habitants de Gaza comme des suspects à assassiner, c'est pas rien. On a un système de criblage aussi par l'intelligence artificielle avec un peu de vérification humaine, puis c'est fondé sur une politique permissive quant aux pertes humaines. Ça veut dire qu'on a le feu vert par rapport aux pertes humaines avec ce logiciel-là. C'est une enquête qui se fonde sur des témoignages de 6 officiers du renseignement israélien qui disent avoir utilisé ce programme-là. C'est appelé Lavender. C'est lavande. C'est loin d'être doux, endormant et apaisant, hein, on s'entend. C'est un peu ironique comme nom. Mais jusqu'à maintenant, cette existence-là de ce programme-là était inédit, en fait. Puis à la fin de l'année, il y a des médias qui ont révélé que les forces de défense israéliennes utilisaient ce logiciel pour justement aller repérer les cibles humaines. Et ça joue un rôle important là, dans tout ce qu'on connaît de la guerre actuellement à travers les années des premières, deuxièmes, guerre mondiale, guerre froide et autres. C'est une toute nouvelle façon de faire, justement, des victimes importantes, des victimes collatérales, sans scrupules. Puis c'est à se poser des questions sur quelles sont nos limites, puis en parlant avec des experts à l'international, des experts en guerre, oui, on comprend que le rôle de l'Occident va être très important. Puis en ce moment, on n'a pas ce rôle-là qui est bien joué par peut-être le manque de force de ceux qui sont à la tête de nos pays ou encore le dépassement, là, être dépassé et de loin, en fait, au niveau technologique, puis au niveau aussi personnel, puis au niveau de ressources, puis au niveau d'activité et de force politique. Et ça, c'est tellement important en ce moment. Je vous le dis, si vous n'êtes pas intéressé par cette façon de se nourrir d'actualité internationale en ce moment, c'est que vous n'allez pas chercher les bonnes informations. Je vous le dis, c'est fascinant, peut-être épeurant un peu par moment, mais assurément à se nourrir. Puis je vous prépare un dossier spécial pour la semaine prochaine justement sur tout ça. Si vous avez des questions en particulier, si vous voulez un axe à explorer aussi en particulier, le 418-971-1021, on fait ça ensemble, ou encore sur Twitch, je vais vous lire et je vais vous considérer. Les Cowboys fringants à Boulevard 102-1 entre deux taxis. On va faire une courte pause. Puis dans quelques instants, on va parler justement à Sylvain Dancause de cette situation particulière. Sylvain Dancause, enseignant au public à l'école secondaire La Courvilloise, qui a vu passer ces deux candidates de Survivor, enseignantes également, une au privé, une au public. Et celle au public s'est vue renvoyée à son retour pour diverses raisons, mais bien reliée à l'émission Survivor, tandis qu'au privé, l'enseignante a été acclamée, applaudie pour le modèle de repousser ses limites et autres qu'elle a démontré à ses élèves. C'est particulier, c'est vraiment deux poids, deux mesures selon le système scolaire et selon où est-ce que tu travailles. Qu'est-ce qui vous convient le mieux dans ce cas-ci? Ça va être à vous de juger.
avec Pascal CV.
Allons, ayons confiance.
Boulevard 102.1.
Prends deux petites secondes de votre temps à 10h41 minutes pour vous rappeler que le concours du Rock'n'Ball est bien en cours. C'est notre gros concours du printemps. On est vraiment, vraiment contents d'être la radio qui vous offre ça. Vous êtes tripeux de musique, vous êtes tripeux avec nous, vous êtes tripeux de sport, vous voulez juste vivre des expériences extraordinaires. Ben, vous avez choisi la bonne station, la bonne gang. Et on est de retour avec ce concours-là pour vous gâter. Et c'est grâce à Variété 2020. Variété 2020, c'est quoi? C'est ton partenaire pour faire des économies, pour t'en payer aussi des trips de même. Parce que ben on achète en grand, en gros, en surplus d'inventaire, puis ben à chaque jour c'est des prix incroyables sur des vêtements, des jouets, de la literie, de l'électronique. Je trouve ça important de le faire puis de le dire en fait ce qu'ils font, parce que si vous allez consommer chez eux, ils continuent d'être partenaires avec nous et donc on continue de vous gâter comme ça. Variété 2020, c'est à découvrir autant sur Facebook que sur place. Et donc le Rock'n'Ball, c'est lancé. On vous envoie en Californie. La partie rock, c'est 2 billets pour la tournée réunion de Blink-182. Rien de moins. Et si vous entendez des chansons de Blink sur nos ondes, OK? Bien, c'est là où vous allez sur le site web de Boulevard 102.1 et vous allez entrer l'heure à laquelle ça joue. Attention, en ce moment, c'est pas le cas, OK? Donc, commencez pas à y aller, là. Hein? C'est pas le cas. Mais c'est comme ça que vous participez, parce qu'on vous envoie au Chase Center pour voir Blink-182. Et le côté balle, c'est des billets pour les Blue Jays contre les Giants au Oracle Park. Donc, San Francisco en juillet prochain. Des gens qui nous écoutent en ce moment, tout au long de la journée. Vol, hébergement, argent de poche. Non! Ce qui joue en arrière et que j'en entendais pas, c'était In Too Deep de Sum 41. Et là, je l'entends. C'est pas ça que vous allez écouter, c'est ça. Chose la plus drôle qui peut arriver dans l'émission. C'est super bon, Sum 41. Ils s'en viennent à l'Agora de Québec, là. Mais nous autres, on vous envoie voir Blink. Donc, c'était vrai. Si vous aviez entendu Sum 41, vous êtes allé inscrire l'heure, soit 10h43. C'est pas une participation, mais tout au long de la journée, on vous en passe du Blink. Soyez sur nos ondes, puis allez vous inscrire. C'est 2 participations par jour. Puis les finalistes, bien, on les annonce de façon quotidienne dans Gravel, dans le retour. Ça m'a bien fait rire. Hey, petite capsule sur les 30 ans du décès de Kurt Cobain. Notre ami Tommy Fontaine a travaillé là-dessus. Je trouve ça tellement intéressant quand ils font ça. Après ça, bien, c'est Rouge Pompier et Vendredi, puis on s'en va rejoindre pour la finalité de l'émission. Notre ami Sylvain Dancause sur cette polémique de Survivor et de l'éducation, finalement. La différence entre le public et le privé.
Le 5 avril. Leur CV avec Pascal CV.
On l'attrape entre deux cours pour parler de cette polémique sur les réseaux sociaux, mais aussi un peu partout. Puis c'est bizarre parce que c'est comme un mélange de divertissement, mais de problématiques bien réelles dans le système scolaire. On sait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, on sait qu'on a de la misère à trouver des enseignants qualifiés. Quand il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont justement dans le système scolaire, mais qu'ils décident aussi de penser à eux, puis de vivre des petites expériences différentes pour un maximum de 2 mois si ça se passe bien, soit participer à Survivor. On peut se dire, bien, ils ont bien droit, puis peut-être justement que ça va montrer un super modèle aux élèves de dépassement de soi, justement de repousser ses limites, de... Moi, j'appelle ça aussi d'avoir beaucoup de courage, de détermination. Puis, c'est arrivé dans la dernière saison de Survivor d'avoir 2 enseignantes bien distinctes dans le système scolaire. L'une est au privé et l'autre est au public. Et la façon de réagir au public et au privé est complètement différente à une enseignante qui décide d'aller faire ce genre d'aventure-là pour quelques semaines seulement. Et ça a bien fait réagir notre chroniqueur éducation habituel, Sylvain Dancause. Salut!
Bonjour, Pascal.
C'est-tu bien résumé, ça? 2 enseignantes, une au privé, une au public, font Survivor, l'une revient, toi, t'es out, tu ne peux plus être dans le système scolaire, on te met à la porte après 10 ans et un dossier complètement vierge. Et de l'autre côté, l'enseignante au privé, qui se voit encouragée, il y a des publications sur les réseaux sociaux de l'école où elle travaille et autres. Tout le monde en parle en ce moment là, sur les réseaux sociaux.
Ben oui, ben ça a commencé avec le centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, tu sais, puis on a appris via les réseaux sociaux qu'une enseignante. Puis de ce que j'ai compris, c'est quand même une enseignante qui est là depuis quelques années. Là, on parle pas de quelqu'un qui est encore à l'université puis qu'on lui dit, bon, ben regarde, on va se passer de tes services là, pendant que tu es aux études. Là. On parle d'une enseignante qui était là depuis plusieurs années. En tout cas, parce que j'ai lu de différents témoignages qui étaient appréciés. Puis bon, elle a décidé de participer à l'émission, comme tu dis, Survivor Québec. Puis là, on apprend que ben, elle s'est faite sacrer dehors en bon français. Donc, elle a probablement, tu sais, pas rempli le formulaire à temps pour une demande de congé sans solde. Peut-être aussi qu'elle a fait une demande de congé sans solde et les ressources humaines lui ont refusé. Ça, on n'a pas le détail, tu sais, de qu'est-ce qui s'est passé derrière les rideaux, comment ça se fait qu'elle a perdu son emploi.
Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait fait les démarches auprès de la commission scolaire. Elle avait demandé, là, sans préciser où est-ce qu'elle allait, parce que c'est confidentiel, puis ils signent justement des documents pour pas annoncer, bon, qu'ils vont faire l'émission, là. C'est comme ça, ça se passe à la télé. Mais elle a demandé si c'était possible qu'elle prenne un congé sans solde entre 2 semaines et 2 mois. Puis suite à ça, ça a été catégorique. On a dit non, pas possible suite à la pénurie d'enseignants. Soit t'es là, soit t'es pas là. Sinon, ben, c'est terminé pour toi. Puis elle a dit ça semblait être refusé d'avance. Mais tu sais, là, je comprends que le point, c'est Survivor, mais ça aurait pu être pour plein d'autres raisons aussi, là.
Oui, ben, j'en connais, moi, des profs, et j'en connais plus qu'un. Là, j'en connais plusieurs qui ont fait des demandes. Bon, j'en connais une qui a fait une demande pour des championnats panaméricains. J'en connais aussi qui ont fait des demandes parce qu'ils voulaient essayer un autre emploi. Puis là, ben, la question, c'est est-ce que je permets sans solde ou non? T'sais? Puis là, ben, il y a sûrement des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais tu sais, peu importe, si tu refuses le sans solde à ton employé, ben, tu viens de lui montrer la porte. Parce que si l'employé prend la décision d'aller faire un autre emploi, d'aller faire Survivor, d'aller au championnat panaméricain de je sais pas quoi, ben là, à ce moment-là, il perd tous ses avantages sociaux. T'sais, il ne reviendra pas. Si tu es prof depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, puis qu'on dit à ton retour, ben excuse, tu vas revenir sur la liste de précarité, excuse, on va t'appeler le matin puis l'après-midi pour faire de la suppléance, tous les avantages que tu as accumulés depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans comme employé permanent, loyal, et dans la plupart des cas, très compétent, ben garde l'excuse, mais ça compte pas, puis va voir ailleurs. Mm-hmm. C'est peut-être un luxe qu'on pouvait se permettre, là, tu sais, dans les années 90, au début 2000, là, quand moi j'ai commencé, les listes de précarité, la liste de précaires, donc des gens qui n'avaient pas de permanence, étaient, bon, interminables. On considérait les employés comme du jetable, puis t'sais, on a déjà jasé, toi et moi, là, si t'es pas content, ben, tu sais, va voir ailleurs si j'y suis. Je suis pas certain que c'est la meilleure stratégie actuellement, tu sais, de dire à ton employé, va voir ailleurs si j'y suis. Je pense qu'il y a un peu de flexibilité. Tu sais, on a beaucoup ri avec la flexibilité des syndicats pendant la grève, tu sais. On est d'accord, toi et moi, que les syndicats donneraient pas des cours de yoga, là. On s'entend là-dessus. Mais, tu sais, au niveau des CSS et des ressources humaines, on va s'entendre que c'est pas une grande preuve de flexibilité non plus.
Puis, mais on applique un protocole, mais le protocole devrait être un peu plus flexible, en fait, pour ne pas perdre des enseignants. Puis moi, je pense juste à un enseignant qui est au bout du rouleau, près du burn-out, qui dit, hey, sais-tu quoi, je vais prendre deux semaines à peut-être 2 mois de congé juste pour me remettre sur les rails, mais je vais revenir, puis je vais revenir en santé mentale, santé physique. Puis ce serait un peu la même chose s'il n'y avait pas de diagnostic, là. Je comprends qu'il y a ressources humaines sur un diagnostic, là. Mais, puis d'aller essayer autre chose, de revenir en santé. Puis c'est fou parce que quand on compare avec l'enseignante qui est au privé, qui, elle, son école publie sur les réseaux sociaux, « Go, on est avec toi, c'est un bel exemple pour les élèves de détermination. » Puis la prof va revenir avec les étoiles dans les yeux, va avoir des choses à raconter. Puis bon, j'en dirais, elle est passionnée, clairement, cette prof-là aussi, là.
Ben oui, ben tu sais aussi, par rapport au modèle que tu donnes à tes élèves, par rapport au fait aussi qu'il y a un sentiment d'appartenance qui se développe, tu peux créer un buzz autour de ça. T'sais, je te parlais tantôt d'une enseignante que je connais qui voulait s'en aller faire des Jeux panaméricains. Tu sais, je veux dire, ça reste des modèles de détermination, c'est des athlètes, c'est des gens qui vont se dépasser puis qui peuvent ramener quelque chose dans ta bâtisse, tu sais, puis de créer un sentiment d'appartenance. Puis ça, ben dans une école privée, on va dire, dans un milieu qui est un peu plus entre guillemets familial, parce que bon, t'as pas un service des ressources humaines nécessairement au-dessus de ta tête, t'as pas un centre de service scolaire au-dessus de ta tête. Bien, on fait preuve de plus de flexibilité, puis on est capable de s'arranger à l'interne pour faire vivre cette belle expérience-là, tu sais, pour ton employé, puis bon, tu t'imagines que ça va y rapporter quelque chose, puis ça va rapporter quelque chose à ton organisation. Tu arrives dans un CSS où on est extrêmement rigide, puis tu sais, moi, quand j'entends le mot protocole, je vire fou, parce que quand les gens respectent un protocole, à un moment donné, tu as le droit, tu as toujours le droit, puis en passant, je donne toujours la permission à mes élèves à chaque année, tu as le droit de réfléchir dans la vie, tu as la permission toujours de réfléchir, peu importe où tu te trouves. Fait que tu sais, quand tu trouves que le protocole est ridicule ou ne s'applique pas, ben décroche, là, je veux dire, sers-toi de ta tête, sers-toi de ton cerveau, réfléchis 3 secondes, puis prends une décision qui a du sens, puis lâche-moi avec le protocole.
Oui, oui, oui. Mais ça, ça fait réagir aussi, tu sais, des gens qui sont un petit peu moins favorables à, bon, avoir une certaine pitié, empathie par rapport à l'enseignante du public. Mais il y en a aussi beaucoup qui disent, ben voyons donc, elle va revenir justement passionnée auprès de nos élèves. Elle n'a pas fait occupation double à aller frencher 7 candidats, là, c'est Survivor. Aye.
Il y a ça aussi, là, je veux dire, ça serait discutable si c'était, je sais pas, moi, on pourrait donner plein d'exemples discutables, mais bon, il y a des exemples...
Célibataire et nu!
Ben, c'est ça qui est ridicule, tu sais, t'as dit le mot protocole, je reviens à ça, c'est que, tu sais, dans le protocole, que la raison soit bonne ou pas bonne, que ça soit un exemple à suivre ou à ne pas suivre, ben, le protocole dit la même affaire, fait qu'il y a quelqu'un en arrière du clavier qui réfléchit pas, tu comprends? Puis, je veux dire, c'est ce qu'on explique à nos jeunes du secondaire, d'apprendre à réfléchir, puis qu'à un moment donné, dans la vie, ben c'est important de prendre des décisions réfléchies avec les avantages et les inconvénients. Puis là, t'as quelqu'un qui est pas capable de réfléchir, qui applique bêtement un protocole. Moi, c'est ça qui me tue dans le système actuel. Puis ça, c'est pas un cas isolé. Je te dirais que des cas comme ça, on pourrait en jaser toutes les semaines.
Puis on perd des enseignants là-dedans. Très rapidement, en 30 secondes, Sylvain, est-ce que tu penses que la commission scolaire de Saint-Hyacinthe va rebrousser chemin, va virer de cap puis dire, oh, c'est correct, qu'il revient? OK, j'ai ma réponse.
Ben, c'est une bonne question. En fait, je rigolais beaucoup hier. On a attiré mon attention vers le fait que le centre de services scolaires affichait un poste de coordonnateur aux communications. Donc, si vous avez le goût de travailler comme coordonnateur aux communications au CSS en question, d'après moi, vous allez avoir de la job là, dans les prochains jours.
Oh mon Dieu, OK, fait que t'as pas l'impression que ça va se régler. Oh, pauvre dame. Bon, on va regarder ça. Ça fait beaucoup réagir, beaucoup de gens s'insurgent. Merci beaucoup, Sylvain Dancause. On a fini l'émission avec toi. Je sais que tu retournes enseigner la réflexion mathématique, du moins, à tes élèves.
Ouais,
hey, bon vendredi.
Les bons citoyens sont capables d'utiliser les chiffres à bon escient.
Ah, ben là, c'est quasiment une insulte pour moi. Mais en tout cas, 2 plus 2, je sais que ça fait 4. On fait des jokes. Salut Sylvain, merci beaucoup, bon week-end, puis on se reparle la semaine prochaine si jamais tu as 2 minutes dans cette folie scolaire actuelle.
Merci beaucoup Pascal, bonne semaine.
Salut. Et merci à tout le monde d'avoir été dans leur CV, c'est ce qui conclut l'émission. Vous êtes vocaux, vous en parlez. Le pire, c'est qu'avec la pénurie, elle n'a aucune difficulté peut-être à se retrouver une job. Ben non, parce que ça se parle entre commissions scolaires. Fait que peut-être le privé l'accueillera si jamais on voit ça comme de la détermination, puis finalement repousser ses limites. À suivre. Merci d'avoir été là. Bon vendredi à tous. Marceau s'en vient pour Marceau le midi. Tom Gauthier se joint à nous. Puis sinon, leur CV, ben, c'est 10 h la semaine prochaine. À tout de suite. La semaine.